Vous êtes sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir Florence.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci.
Alors, je vous écoute, ma chère Florence.
Alors, ben écoutez, j'ai mis un petit moment, enfin, ça fait un petit moment que je vous écoute, que j'ai envie de vous appeler pour me raconter, pour vous raconter mon histoire, qui est complexe et qui est difficile à raconter. Et je me suis dit que ce soir, c'était le bon moment. C'est pour ça que je vous appelle.
D'accord. Ce soir, vous vous sentiez, voilà, c'était le bon moment pour vous. Ben écoutez,
tout à fait.
Ça tombe bien en plus, voyez, puisque on est là, on peut vous accompagner pendant un petit moment.
Bon. Alors, je vous explique, Caroline. En fait, je vis en union libre depuis 22 ans avec donc mon conjoint.
Oui.
En 2005, on a eu notre première fille aînée. Et en 2008, notre seconde fille.
Oui.
Quand nous nous sommes rencontrés, c'était en vacances et nous avions une relation... j'irai à une relation le week-end uniquement, puisque nous habitions à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Nous étions, alors le week-end, souvent je disais à ma meilleure amie, je ne le reverrai pas parce qu'il était franchement détestable. Et je me disais, il ne reviendra pas, et chaque week-end il revenait.
Il était détestable ?
Oui, il n'était pas aimable. Sincèrement, il n'était pas... non,
ah
il n'était
bon
franchement pas, non, c'est pas vraiment de très très bons moments. Et puis il revenait, et puis donc on a continué notre relation, un petit moment pendant plusieurs mois. Et puis bon, là ça allait un petit peu mieux, et je lui ai dit, ben écoute, comme les mois, les années passent, il faut quand même savoir ce que l'on va faire, puisque moi j'avais 33 ans à l'époque, et lui est plus jeune que moi, il en avait 28.
Oui.
Et donc nous avons donc décidé de vivre ensemble. Donc je suis allée m'installer chez lui.
Alors ça veut dire qu'il était devenu plus aimable à vos yeux?
Oui, un petit peu. Oui, plus aimable.
Plus, vous dites.
Un petit peu plus.
Mais vous étiez quand même prête. Il fallait quand même, parce que si vous lui disiez bon maintenant on fait quoi, et que vous avez pris la décision de vivre ensemble, et puis d'ailleurs après vous avez eu vos filles, c'est bien que quand même vous étiez tombée amoureuse et vous.
Ah oui. Moi j'étais totalement. J'étais amoureuse. On peut dire le mot. Oui, j'étais amoureuse. Tout à fait.
Il avait des bons côtés quand même, cet homme.
Oui, il y avait des bons côtés. Bon, c'est vrai qu'il est, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a un job intéressant, qui est agréable en société et qui physiquement est bel homme.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est pareil. Quand nous avons décidé de vivre ensemble, c'était difficile aussi pour lui de prendre cette décision. C'était oui, non. Donc nous sommes installés ensemble, et au bout de 4 mois, il rentrait de plus en plus tard de son travail. J'en avais assez. Et quand je lui ai dit, écoute, là c'est plus possible, à 21h30, on n'a pas de soirée ensemble. Et elle m'a dit, écoute, non, finalement on va se séparer, c'est pas possible la vie à deux. Et il a cherché donc un appartement pour moi. Les appartements qu'on a visités, alors moi j'étais pas motivée parce que j'avais pas du tout l'intention de m'installer seule, et donc je suis repartie vivre chez mes parents. Et au moment de récupérer mes meubles, il m'a dit non, finalement je trouve qu'on est pas mal ensemble, j'ai fait une bêtise, etc. Donc on s'est installés ensemble.
Oui, les débuts ont été très chaotiques quand même.
Très chaotiques, ouais, tout à fait. Et puis ensuite, on a décidé donc en 2004 d'acheter un pavillon.
Oui.
Et là, c'est pareil, quand on a eu la réponse, c'était non, on ne s'entend pas assez, c'est pas possible. Et puis moi, je ne voulais pas d'enfants à l'époque, parce que je voulais une vie indépendante, sans contrainte.
D'accord.
Et donc c'est ce qui lui a fait un petit peu peur, parce que lui voulait des enfants. Et puis finalement cette maison, on a fini par l'acheter. Et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué de lui annoncer, parce que tout changement est délicat pour lui. Et finalement il a vraiment bien pris, et il était heureux.
Paternité future.
Voilà. Oui. Pendant dix ans. Je le trouvais transformé, bien. vraiment bien, en position, ce n'était que
oui,
du
vous positif. Avez eu 10 ans de stabilité, finalement.
À peu près.
Même avec vous, ça se passait mieux dans votre couple.
D'accord. Tout à fait. Il était, je dirais, plus équilibré.
D'accord.
Ensuite, en 2018, en fait, j'ai ma fille aînée qui, un samedi soir, vient me voir et me dit « Oh là là, maman, c'est grave », avec le téléphone à la main. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle invente ?» Et en lisant donc les échanges de textos sur son téléphone, ben, je me suis rendu compte qu'il avait une liaison.
Ah
et
oui
puis comme je suis du genre à creuser, à chercher, etc., je lui ai pris son téléphone pendant donc c'était un téléphone de travail et le lundi, quand il a repris son activité, je lui ai dit non, moi je garde ton téléphone parce que j'ai peur que tu l'appelles et que
Il appelle cette
contact.
Autre femme.
Voilà.
Et mais pourquoi votre fille, enfin bon, c'est peut-être anecdotique au regard de ce que vous allez me dire par la suite, mais pourquoi elle regardait les messages sur le téléphone de son père ?
Parce qu'en fait, elle était partie en voyage linguistique en juillet et ils s'échangeaient des messages via WhatsApp. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle voulait regarder, quelques mois après, elle voulait regarder les conversations qu'ils avaient eues.
Oui. C'est pas simple pour elle parce que elle vient vous annoncer cela.
Tout à fait.
Oui.
Et donc, alors, j'ai gardé le téléphone, j'ai creusé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait non seulement eu des relations, avec cette dame. Et puis, également avec d'autres personnes. Et il m'a dit qu'il allait sur un site. J'ai le droit de le nommer ou pas ?
Oh, c'est pas utile. Il vaut mieux éviter de faire de la publicité pour les sites.
Pour ce genre de... Voilà, c'était un site pour gens mariés, créé par des femmes.
Ah oui, d'accord, oui.
Voilà.
Donc, des rencontres, justement, sans lendemain.
Tout à fait, conjugal. Sans lendemain. Et là, j'ai découvert que non seulement il avait eu des relations avec des femmes, des hommes... Des ex, qu'est-ce qu'il y a eu encore, des dames qui travaillaient aussi sur le même lieu de travail. Donc j'ai découvert tout ça. Alors moi qui suis vraiment complètement aux antipodes de tout ça, je suis tombée vraiment de haut.
Mais tout en même temps, c'est-à-dire qu'il avait des relations multiples.
Oui, tout à fait. Avec les risques que ça engendre, évidemment. Hein. J'ai encore eu de la chance de ne pas m'attraper une maladie quelconque. Et puis, là, j'ai été dévastée, mais vraiment dévastée.
Oui, je comprends.
Donc, on a suivi... alors, j'ai voulu, si vous voulez, protéger ma famille, protéger mes enfants. Donc, j'ai gardé tout pour moi. J'en ai parlé à 3 amis qui étaient éloignés du milieu familial et qui ne risquent pas de dévoiler, si vous voulez, quoi que ce soit à notre entourage familial ou vraiment amical proche.
3 amis sûrs aussi,
de
confiance.
Voilà, exactement. Oui. Et donc, on a suivi une thérapie de couple.
Mais c'est vous qui lui avez demandé parce que... comment ça s'est mis en place ? Comment il a... Quand vous étiez dévastée et lui, quand...
J'ai envie de vous dire... Il a toujours été addict, en fait. Quand je l'ai connu, il avait...
Addict à quoi ?
Alors, au départ, c'était la cigarette. Bon, l'alcool, il aime bien.
Oui.
Après, ce qu'on a fait... après, c'était, j'ai découvert au sexe. Hein, alors donc, quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, écoute, il va falloir que t'entreprennes différentes démarches, donc thérapie de couple. Donc on était d'accord tous les deux. Et puis je l'ai emmené aussi à l'hôpital Brousse, où il y a un addictologue qui est très connu, très réputé.
C'est vrai.
Qui lui a fait donc passer un test. Et qui ensuite m'a reçu après une fois qu'il a eu passé ce test et qui m'a dit votre mari est addict au sexe et en plus il est maniaco-dépressif
ce qui peut expliquer d'ailleurs dans les troubles bipolaires il y a fréquemment des addictions et notamment une sexualité
débridée.
Ça peut, c'est pas après,
oui, bien sûr, c'est
mais
pas...
oui, on peut retrouver ce symptôme-là dans les états de manie, notamment. Vous n'aviez pas constaté dans son comportement, il y avait cette instabilité, mais il n'avait pas des, des épisodes où il était particulièrement exalté, excité. Vous ne constatez
si,
pas ça?
Ça peut arriver. Ça peut arriver, notamment dans le travail. Vous voyez, où il y a des moments où il se trouve totalement nul. Et puis, il y a des moments où c'est le meilleur.
C'est ça. Oui, c'est des montagnes russes, quoi. Il descend très bas et il peut monter très haut aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis... Donc, il a aussi suivi une thérapie avec, pareil, un psychothérapeute réputé pour les addicts au sexe. Et donc, au début, il me parlait un petit peu des entretiens qu'il avait avec son thérapeute. Et puis ensuite, je lui posais plus de questions parce que j'avais plus envie de savoir.
Oui, vous avez eu raison.
J'avais plus envie. Et puis, il y a une quinzaine de jours, en fait, on est... Moi, j'étais en déplacement professionnel et puis ça s'est très mal passé en fait avec l'une de nos filles qui m'a appelée et là je lui ai dit bah écoute, passe-moi ton père et bon, on s'est engueulé. Et puis là bah je lui ai dit écoute, moi j'en ai assez quoi, ça fait des années que je te porte à bout de bras, que je te protège, là j'en ai marre. Et puis quand je suis rentrée de mon déplacement professionnel, il m'a dit écoute, ça peut plus durer, tu n'es pas heureux, je ne suis pas heureux, les filles ne sont pas heureuses, donc on arrête là. Je pensais qu'avec tout ce que je t'avais fait en durée, tu serais partie la première, et comme tu pars pas, et je prends la décision de partir. Donc c'est, je dirais, une deuxième une autre encore trahison, parce que je me dis je l'ai aidé. Donc évidemment on n'avait plus de relation depuis depuis 2 ans, parce que moi, je pouvais plus. Mais malgré tout, on avait constitué un patrimoine important, parce que j'ai toujours travaillé énormément pour la famille. Et donc, je voulais préserver ça. Et puis, je me disais que finalement, au quotidien, c'était vivable. Et je me suis dit, bon, vu l'âge que l'on a maintenant, c'est bon. Et puis, donc, c'est difficile.
Vous avez quel âge ?
55 ans.
Bah, c'est pas si vieux, ça.
Non, mais bon, c'est pas si jeune non plus.
Non, certes, mais finalement, vous n'étiez pas très heureuse depuis quelques années dans cette relation.
Non, ça c'est sûr. Et puis après, vous voyez, j'arrivais encore, comme il n'avait pas changé son code, j'allais constamment voir sur le téléphone. J'étais toujours aux aguets en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Où il va? Est-ce que je peux avoir confiance? Et la psychologue de couple m'avait toujours dit, vous savez... parce qu'elle a voulu à un moment donné nous recevoir séparément pour faire le point avec l'un et avec l'autre. Et là elle m'a dit, vous savez, il ne changera jamais. Elle dit, on change quand on est adolescent, on peut avoir une sexualité vers l'un ou l'autre sexe, mais on est en construction. Elle dit, là maintenant il va avoir 50 ans, ça fait des années qu'il vit de cette façon là Il a une famille pathogène, il a été élevé dans une famille vraiment spéciale. Et donc, il s'est construit comme ça. Elle dit, et c'est vrai qu'elle nous a suivis quand même pendant quelques années.
Oui.
Elle était
assez pessimiste sur l'avenir.
Voilà. Tout à fait. Et elle m'a dit, vous ne le changerez pas. Alors, j'avais posé cette question-là à l'addictologue, au médecin psychiatre addictologue. Et lui, il m'avait dit, si jamais tel était le cas, on ne serait pas là.
Bah, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que si c'est lié, alors il parle aussi de troubles bipolaires, puisqu'on parlait auparavant de troubles maniaco-dépressifs. Bon, aujourd'hui, il y a une autre appellation, mais ça recouvre la même réalité. Je vous disais, il y a beaucoup de conduites compulsives dans les états de manie. Si déjà on peut... un peu stabiliser l'humeur, traiter cela et que la personne en a le désir, il y a des choses qui peuvent évoluer. Rien n'est jamais... Sur le plan de la construction de soi et de la sexualité, c'est vrai que ça se construit pendant l'adolescence. Enfin, ça se construit d'ailleurs depuis l'enfance, au fond. Et évidemment, pendant l'adolescence, jeune adulte. Après, c'est vrai qu'on ne change pas d'orientation comme ça, de désir. Mais... quand on est dans quelque chose de compulsif et de symptomatique, ça peut évoluer quand même. Mais bon.
Alors moi, il me disait en fait que, vous voyez, même quand il était au travail, et Dieu sait s'il aime son travail, il ne pensait qu'à ça. Il y a 2 ans.
Oui, il était obsédé par des images. Il lui fallait, c'était presque devenu une drogue pour lui. Mais la sexualité a... il y a quelque chose, ça fonctionne un peu comme un anxiolytique, comme un shoot. Enfin, il y a Alors, oui, évidemment, comme toutes les drogues, dans toutes les drogues, il y a la dimension, dans toutes les dépendances, de plaisir. Évidemment, dans la sexualité, on est bien là-dedans. Mais après, on le voit avec parfois la masturbation. Il y a des hommes qui, même au travail, ne peuvent s'empêcher de consulter des vidéos pornographiques et qui, certains disent qu'ils vont dans les toilettes se masturber. Mais, donc, ils prennent des risques énormes parce que c'est envahissant. Et souvent, derrière, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse derrière ça. Vous savez, la sexualité, elle est au creuset des pulsions de vie et des pulsions de mort. Alors, ça peut être pour le meilleur, ça peut être pour le pire. Mmh. Il peut y avoir quelque chose d'assez destructeur aussi. Oui, donc, est-ce qu'il avait, lui, le désir de, au fond, de... Parce que, est-ce que ça le... Est-ce qu'il était mal, au fond? Non. Alors, ça, parce que ce qui peut amener désirer à changer, c'est qu'à un moment, on en est au fond malheureux. Il y a quelque chose, on se rend compte que ça ne va pas bien. Vous voyez,
c'est... je ne sais pas. Je pense pas parce qu'il n'a jamais. Vous voyez, il a. Au début, oui, il pleurait parce qu'il avait peur que je le quitte.
Oui, il a eu peur de ça quand même.
Il a eu peur, oui.
Il était malheureux d'envisager que ça pouvait conduire à l'effondrement de votre couple.
Voilà.
D'ailleurs, mais il a accepté la thérapie de couple, enfin.
Oui. Oui, tout à fait, mais il m'a toujours dit, quand on sortait d'une séance de thérapie, moi, ce que j'ai peur, c'est que je ne veux pas te rendre malheureuse, alors que c'était déjà fait, mais je ne veux pas te rendre malheureuse en te faisant croire que je peux m'en sortir et te dire dans 2-3 ans que je n'y arrive pas et que on arrête notre relation.
Il était lucide sur lui-même, c'est-à-dire.
Tout à fait. Oui. Et là, je me demande, justement, il ne me le dit pas bien évidemment, mais je me demande si actuellement, ça fait 2-3 ans, qu'il n'a pas, grâce à son thérapeute, avancé sur le sujet et se dire que finalement, c'est la vie qu'il souhaite.
Je ne peux pas répondre, lui seul pourrait le dire, mais vous, qu'éprouvez-vous ? Parce qu'il vous dit à un moment, je pensais qu'avec tout ce que je t'ai fait endurer, tu allais partir. Mmh. Oui, vous avez enduré beaucoup, Florence. Mmh. Dans quel état êtes-vous ? Parce que malgré tout ça, vous sembliez... vous dites que c'est une deuxième trahison quand il vous dit, au fond, je ne suis pas heureux, je ne te rends pas heureuse, il vaut mieux nous séparer. Et là, vous me dites que vous le vivez comme une deuxième trahison.
Oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, si vous voulez, de le soutenir à bout de bras, de le protéger.
Peut-être trop, d'ailleurs.
Peut-être.
Au fond.
Peut-être.
À quel prix pour vous, finalement ?
Alors après, comme je suis hyper indépendante et j'ai toujours mené mon chemin de vie, j'en ai énormément souffert
pendant un croire. An. Oui.
C'était terrible, mais vraiment, c'était terrible. En
plus. Oui, c'est assez dévastateur, la découverte que vous avez faite, cette profusion.
C'est difficile parce que je me disais, voyez, j'aurai un cancer, je peux en parler, les gens me plaindront. Alors que là, c'était tellement honteux que je ne pouvais en parler à personne. Parce que vous, même dans votre entourage, après, vous avez toujours des amis pour se moquer en disant t'as vu un tel, t'as vu ce qu'il a fait, ou t'as
oui,
vu
c'est ça, malheureusement.
La femme d'eux. Ou...
Oui, ça peut être sujet à sarcasme.
Complètement.
C'est dans ce sens que vous parlez de honteux.
Complètement.
De quelque chose,
Tout à fait, parce que c'est pas du tout l'image qu'il donne. Pas du tout, du tout, du tout. C'est l'image d'un bon père de famille. Avec un job à responsabilité, avec... voilà.
Oui, mais derrière les images, vous savez. Parce que vous ne viviez pas avec une image. Vous viviez avec cet homme... Ah, vous viviez avec une image.
La preuve, c'est que j'ai vécu avec un homme que je ne connaissais pas.
Oui.
Vous voyez, par exemple, il me disait récemment, je me suis souvenue, il y a à peu près 3 ans, 2-3 ans de ça, il allait dormir chez ses parents, une nuit par semaine. Mm. Je trouvais ça un peu bizarre. Et là, je lui ai demandé dimanche, je lui ai dit, mais quand t'allais dormir chez tes parents, t'allais coucher à droite à gauche, en fait. Mm. Et il me dit non. En plus, moi, j'étais rassurée parce qu'il me téléphonait de chez ses parents du téléphone fixe de ses parents, ou alors il me téléphonait avec son portable, mais j'entendais ses parents derrière, la voix de ses parents.
Donc, il allait bien voir ses parents.
Oui, mais alors je lui dis, mais je te demande pas ça. Je te demande avant ce que tu faisais. Mais elle me dit, oui, ça, j'allais ailleurs.
Voilà. Mais quand je vous demandais, quand je vous disais, vous ne vivez pas avec une image, je voulais dire, il y a l'image que les autres, les amis, la famille se font de votre couple, mais vous, cet homme, il était dans votre quotidien. C'était, oui. C'était au-delà de l'image, de sa réussite sociale. Mais j'entends dans votre réponse qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui s'est effondré chez vous.
Ah, mais moi, tout s'est effondré. Mais vraiment tout. J'ai été dévastée. C'était vraiment de la sidération.
Mais au fond, il est malade. Enfin, j'utilise volontairement ce terme. Vous voyez ?
Vous voyez, j'ai appelé son meilleur ami parce que je découvrais tellement de choses qui étaient totalement irréelles.
Mais son meilleur ami était au courant ?
Non, de rien.
Lui-même le cache, enfin, ce qu'il vit.
Il savait quand même qu'il me trompait, mais il ne savait pas tout. Il ne savait pas tout. Donc là, il m'a dit, aide-le, il est malade.
Oui, mais enfin, certes, mais d'abord, aide-le, ça remet quand même en question beaucoup de choses. Parce que ça ne dédouane pas non plus de tout. Et en tout cas, vous... l'effet que ça a sur vous, vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de main. Même si, derrière tout ça, on voit qu'il y a des attitudes très compulsives, et au fond, il n'y a pas de relation suivie. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de liaisons où ce qu'il recherche, c'est la quête il y a quelque chose d'obsessionnel, de compulsif dans ces rencontres sexuelles, mais furtives. Au fond, c'est avec vous qu'il y avait un attachement.
Alors, est-ce qu'il était vraiment attaché ?
C'est ça aussi que vous remettez en question, c'est ça qui est
douloureux. Oui, et puis, vous voyez, ce qui me fait peur actuellement, c'est de me dire, est-ce que j'ai été assez à l'écoute ? Parce qu'il arrive quelquefois à vous faire culpabiliser. Il me dit, de toute façon, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est de ma faute parce que j'étais pas assez à l'écoute,
C'est ce qu'il vous dit ?
Oui, il me dit que s'il a fait ce qu'il a fait, c'est que aussi c'est par rapport à mon comportement qui a fait que.
Oui, mais là, non. Donc, ça vous fait douter ?
Non, parce que j'en ai discuté aussi avec la psychologue de couple qui m'a dit non. Parce que si jamais il y avait quelque chose. Alors, c'est vrai que je peux être directive parce que j'ai mon caractère, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Que je fais beaucoup de choses et que lui ne faisait pas grand chose, et quand je lui demandais quelque chose, il avait l'impression que je le commandais. Donc ça a toujours été un peu conflictuel. Mais elle m'a dit, de toute façon, si jamais ça n'avait pas été dans votre couple, il aurait eu éventuellement, il serait tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais de là, aller faire tout ce qu'il a fait,
c'est ça.
Non.
Elle a raison, c'est très différent. C'est-à-dire qu'après tout, à un moment, il y a des aspects de la personnalité chez l'autre qui ne nous conviennent pas ou plus. La relation de couple, on peut se sentir un peu affaibli, diminué, ou en tout cas, on ne peut pas exister comme on le voudrait. Et à ce moment-là, on peut rechercher ailleurs ou se mettre dans un état de disponibilité qui fait qu'on fait une nouvelle rencontre. Mais là, on parle d'autre chose, là. Il y a quelque chose de très compulsif. Et finalement, il ne cherche pas à être... Le couvert, c'est toi qui me rends malheureux, tu n'es pas assez à l'écoute. Donc, je saute sur tout ce qui bouge à l'extérieur, homme, femme,
Il y a eu des prostituées sans papier aussi. J'ai oublié ça.
C'est intéressant d'ajouter sans papier, parce qu'on revient...
Sans papier.
De toute façon, les pauvres, c'est elle que je plains. Vous voyez, déjà, c'est pas simple. Et en plus, ça veut dire que... Mais là, dans son attitude compulsive, peu importe. C'est-à-dire que professionnel, ça va avec sa problématique. Mais vous voyez bien qu'il ne cherchait pas une relation, un lien. Il cherchait du sexe. Et qu'à un moment, le soulager... d'une angoisse, de quelque chose, et évidemment qui ne règle rien dans le fond et qui donc est perpétuellement recommencé. Donc là, il y a c'est trop facile de vous mettre ça sur le dos. Et c'est une façon de nier les difficultés. Mais bon, certainement, quand on... Comment dire? Parfois, la culpabilité, il est enfin, on préfère, c'est un mécanisme de défense, la projeter sur l'autre que de faire un peu son introspection.
Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de me dire. Mais ce qui me fait peur, bon, il a été 2 ans en thérapie, je pense qu'il va continuer. Je me dis, peut-être qu'il va être heureux. Et ça me rendrait vraiment triste, vous voyez, parce que c'est moi encore qui, dans l'histoire, va être, je vais devoir faire un deuil. Là, il veut la garde alternée d'une des deux filles, hein, pas des deux. Parce que avec l'aîné, il a des relations depuis plusieurs années très très conflictuelles, vraiment très conflictuelles. Donc là, il aimerait, alors qu'il s'en est, mais jamais occupé.
Oui, mais vous rendez compte, enfin là, c'est terrible pour les, ça va, enfin pour votre fille aînée, c'est très dur. C'est en gros, toi, je te veux pas, mais je veux bien ta sœur. Et pour votre seconde fille, ça la met dans une situation impossible, infernale.
Ah bah elle est tiraillée entre lui et moi.
Bah oui, parce que c'est finalement, papa me veut bien, toi, mais c'est et sa sœur, il s'en occupe pas. C'est très culpabilisant. Non, mais ça, c'est vous n'avez pas à tout accepter.
Ah ben non. Donc
Là aussi, pas de remise en question. Au lieu de dire j'ai une relation difficile avec ma fille aînée et finalement essayons de l'améliorer. Enfin, ça peut arriver, c'est une adolescente. Elle a quel âge aujourd'hui ?
16 ans.
Elle a 16 ans. Bon, ben voilà, au lieu de se dire, finalement, c'est une façon de régler le problème, c'est, c'est difficile avec elle, donc je ne la veux pas. Je fais comme si elle n'existait pas. Non, c'est pas possible, ça. Et même pour les deux sœurs, pour la relation entre les deux sœurs. Ça serait préjudiciable. Oui, mais alors, vous êtes extrêmement ambivalente, hein, ce qui est compréhensible au vu de ce que vous avez traversé. Déjà, beaucoup d'auditeurs, à l'image de Théodora, de Louis, dès le début de votre relation, vous avez dit qu'il était détestable. Donc, c'est un mauvais présage pour une vie de couple. Alors, on peut dire aussi... qu'aujourd'hui, vous parlez de lui à l'aune de ce que vous savez aussi. Ça pèse dans la balance, j'imagine. Vous n'en auriez peut-être pas parlé comme ça pendant ces 10 ans, après la naissance de votre fille, où vous dites que là, vous aviez trouvé une stabilité ou finalement un certain équilibre.
C'est vrai, j'étais heureuse, hein, parce que je disais aussi à ma meilleure amie, il a vraiment changé, ça l'a aidé à se stabiliser, à se structurer.
La paternité, et il avait beaucoup investi, votre fille, à ce moment-là,
Pas vraiment, non, parce qu'au moment de la naissance, je lui demandais d'être présent et il rentrait toujours très tard.
Mais par rapport à, on sent qu'à la enfin, on voit bien, vous lui en voulez, et vous avez des raisons de lui en vouloir, votre vie de couple était réduite un peu à néant, vous dites depuis 2 ans, vous n'aviez plus de relations intimes, et le dialogue était quand même devenu difficile, vous étiez en permanence sur le qui-vive, à essayer de voir dans son téléphone s'il n'était pas en lien avec des femmes, et en même temps, vous dites, alors qu'il vous annonce, je trouve que là, lui, il fait preuve... au fond d'une certaine sagesse, et pour lui et pour vous. De dire, je ne suis pas heureux, je ne te rends pas heureuse, il vaut mieux nous séparer. Et au fond, vous avez passé plus de 20 ans ensemble, donc on ne se sépare pas comme ça, mais évidemment, j'entends ce que vous me dites, de dire, la thérapie va peut-être l'aider, il va peut-être aller mieux, et au fond, ce n'est pas vous qui allez en profiter alors que vous l'avez soutenu pendant des années. Voilà. C'est ça qui est ça. Dur à...
Et ça me fait peur parce que je ne sais pas si j'ai... Enfin, la thérapeute de couple m'a dit, il y a une quinzaine de jours quand je l'ai appelée, parce qu'on avait arrêté il y a à peu près 3-4 mois la thérapie. Et là, je l'ai appelée pour lui dire que finalement, on allait se séparer. Et je lui ai dit que c'est ma crainte qu'il arrive à être heureux avec quelqu'un d'autre. Et là, elle m'a dit, elle le connaît bien, il ne sera jamais heureux. Elle me dit, si jamais vous le voyez heureux, ce sera qu'une façade.
Oui, elle est ouf, c'est lapidaire. Elle ne le sait pas, elle qui le suit.
Si, elle nous a suivis dans le cadre d'une thérapie de couple.
Oui, c'est différent. C'est-à-dire qu'elle vous suivait tous les deux, mais ce n'est pas sa thérapeute. J'imagine que sa thérapeute ne parlerait pas comme ça. Mais cela dit, elle a pu un peu voir sa problématique. C'est humain, ce que vous dites. C'est, il y a quelque chose, évidemment, de dire, bon, vous avez enduré beaucoup de choses, et vous dites, ça se trouve, lui, il va s'en sortir. Finalement, ce qui compte, c'est vous, actuellement. Et je pense que vous, ça serait important que vous continuiez un peu un accompagnement. Peut-être d'ailleurs avec celle qui, de thérapeute de couple, puisque ça s'est arrêté, avec qui vous parlez, vous, et qui peut continuer à vous suivre à titre individuel, pour alors vous aider refuse. À traverser ce moment. Pourquoi ?
Je lui ai demandé, elle refuse parce qu'elle elle me dit que c'est un lieu qui était réservé au couple, donc ça, je vais avoir de nombreux souvenirs.
Ah d'accord, c'est d'accord. Voilà. Oui, c'est-à-dire que parfois, ce qui peut arriver dans une thérapie de couple, où le couple est reçu pendant quelques séances, et puis finalement, il y en a un qui est plus en demande, et le thérapeute fait de la thérapie individuelle avec celui qui est le plus en demande ou le plus en souffrance. Mais là, si vous avez fait une thérapie pendant 2 ans, c'est long à... Ce qu'elle vous a dit s'entend tout à fait. Mais en revanche, elle pourrait certainement vous donner les coordonnées de consoeurs, de confrères, qui pourraient vous accompagner dans ce moment un peu difficile. Parce que, vous voyez, enfin, dans ce que j'entends, vous vous êtes un peu perdu, vous. Vous avez beaucoup porté.
Oui.
Vous avez beaucoup porté. Et aujourd'hui, vous vous dites, c'est humain. Et c'est quelqu'un d'autre qui va en récolter les fruits. Je pense que, pour le coup, c'est pas si simple. Je pense que c'est pas si simple parce qu'il y a quelque chose d'une problématique assez complexe quand même, au vu de ce que vous me décrivez, de la personnalité de votre mari. Et vous, il faut que vous soyez aidé et que vous partiez du constat que, depuis quelque temps, et quand même, vous n'étiez plus si heureuse que ça, voire plus du tout heureuse. Alors continuez à quel prix pour vous, finalement, voyez ? Ou dans cette inquiétude, et où vous, en tant que femme aussi, c'est quand même très douloureux, comme vous dites, déstabilisant. Et que c'est important que vous vous retrouviez, vous, peut-être qu'au fond, vous pouvez vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant.
Certainement.
Vous voyez ? Et puis, pourquoi vous fermez la porte à cela ?
Il y avait quelque chose qu'il m'avait dit pendant les vacances, au mois d'août, je me souviens, on était détendus, on était bien. Et puis il me dit, on essayait de reconstruire. Et il me dit, tu sais, de toute façon, moi, j'aime que le sexe hard, le sexe normal ne m'intéresse pas.
Il est lucide. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est terrible, c'est que finalement, même à vous, j'espère qu'il a pu l'évoquer, mais la notion d'attachement, il est pris dans ses pulsions. Vous voyez, même là, dans ce qu'il vous dit, c'est violent au fond.
Complètement.
Que finalement, le lien à l'autre, c'est pas du lien dont il parle, c'est de la pulsion. C'est du hard. Il faut quelque chose qui, bon, il parle de ses fantasmes, mais au fond, quid de vous? Et de ce qu'il a vécu avec vous, et de ce que vous avez représenté pour lui. Et je pense que ça, c'est important pour vous d'en parler un peu. Que vous ne restiez pas uniquement sur cette dimension-là. Parce que oui, vous découvrez un étranger, mais ça n'enlève pas non plus ce que vous avez vécu et quand même construit à un moment donné ensemble. Maintenant, vouloir à tout prix prolonger ce lien, au vu de ce qui s'est passé, et surtout au vu de ce qu'il vous dit aujourd'hui, de lui, franchement, c'est pas ce qu'on peut vous souhaiter.
Ouais, non,
très honnêtement.
Aujourd'hui, de toute façon, il ne me parle plus de lui.
C'est mieux. Comment... C'est mieux pour vous. C'est mieux parce que finalement, vous me parlez plus de lui que de vous. Et il faudrait revenir un peu à vous, Florence. Parce que tout ça est extrêmement déstabilisant, perturbant, ce que vous avez vécu, douloureux, même de remise en question dans votre féminité. Alors qu'en fait, ça ne vous enlève rien. C'est lui, c'est sa problématique à lui. Mais vous avez besoin d'en revenir à vous, je trouve. Vous voyez ? Et évidemment, pour le moment, vous ne voyez que sous son angle à lui. Et il faut que vous reveniez à vos désirs, à vous. Et à un moment, ça a tout contaminé les siens. Et vous perdez un peu. Et ça serait bien que vous ayez un espace à vous pour être accompagnée. Ça fait beaucoup réagir. Avant qu'on se quitte, je vais vous lire des messages. Il y a Johanna qui dit « Moi, je suis tombée sur un pervers qui me disait souvent « C'est ta faute si je fais ça ». Par chance, je ne suis pas restée longtemps avec lui. » Alors, il y a Louis qui dit « Bah oui, rejette la faute sur vous parce que c'est un pervers. » Il y a également Camille qui dit « Ce genre de personnes ne change jamais, ne pense qu'à eux et leurs intérêts. » Attention à ce qu'ils ne vous fassent pas de reproches. C'était avant que vous nous confiez qu'il vous rendait responsable de son comportement. Il y a Lisa qui dit « Mon ex, c'était pareil. Un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Il voulait une femme, des maîtresses. » Et ça a été très dur puisqu'il a fini par avouer à Lisa qu'il ne l'avait jamais aimée. Louis dit « Il a du mal à se respecter lui, il ne vous respecte pas vous. Il est important que vous preniez soin de vous. » Il y a Stéphane qui dit « Vous êtes une personne attachante et il faut vous retrouver et puis vous avez le droit de vouloir vivre quelque chose de mieux et de tomber quelqu'un qui vous aimera, vraiment. »
C'est gentil.
Alors, il y a Violaine qui dit « Personnellement, je redouterais de confier ma fille à un addict sexuel, fût-il son père ?» Non, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger parce qu'il peut avoir effectivement ces pulsions qui le débordent. Et pour autant, ne pas être un père incestueux. Vous voyez, il ne faut pas tout confondre.
Oui, j'ai posé la question.
En revanche, s'il est structuré, vous pouvez en parler sur un mode pervers. Là, prudence par rapport à vos filles, pervers moral. Hein, pas, en tout cas, cette histoire de « je veux bien la deuxième, mais pas de l'aînée », ça c'est niette. C'est inconcevable et très préjudiciable pour vos filles, aussi bien l'aînée que la deuxième. Vraiment. Demandez à cette thérapeute de couple, elle vous donnera sûrement les coordonnées de quelqu'un de bien qui va pouvoir un peu vous accompagner. Vous avez besoin de parler de vous, avant tout, et de ce que tout ce que vous venez de traverser d'extrêmement perturbant. D'accord ?
Tout à fait. Merci Caroline.
Merci Florence pour votre confiance et prenez soin de vous.
Merci beaucoup. Merci Caroline.
Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.
Merci.